Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. On attend d'une seconde à l'heure l'intervention du ministre de la Santé, M. Véran. L'info tous les jours avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. D'une seconde à l'autre, effectivement, ces annonces donc du gouvernement face à la cinquième vague. Troisième dose pour tout le monde, de nouvelles règles aussi à l'école, on vous détaille ça. Et puis l'émotion, bien sûr. Sur l'émotion, mais aussi la colère à Calais après le naufrage d'hier. 27 morts, on le rappelle, parmi eux, 7 femmes et 3 adolescents.
Et juste après le journal, évidemment, on échangera, on décryptera, on débattra avec toute la rédaction de RTL qui est mobilisée pour vous faire vivre cette conférence de presse d'Olivier Véran, toutes les annonces, ce qui va changer, vous saurez tout. Et on se demandera aussi, bien sûr, si tout cela sera suffisant pour contenir le regain de l'épidémie de Covid.
Notre question du jour sur RTL.fr, elle concerne Noël. Et oui, c'est dans pile un mois. Avez-vous déjà commencé vos achats de cadeaux? Vous dites oui à 34%, non à 62%. Notre météo, c'est avec vous Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
Et c'est encore bien gris, franchement il y en a marre.
C'est vrai, aujourd'hui on ne verra pas beaucoup le soleil, désolé. Alors sauf sur les bords de Manche où ça va se dégager cet après-midi. Quelques trous possibles sur le nord-ouest, mais pas grand-chose, mais aussi quelques gouttes. C'est gris et pluvieux sur la moitié sud avec de la neige en montagne dès 1100 mètres. Et c'est orageux sur la côte varoise. Les températures globalement sous les normales, de 2 à 9 degrés au nord. C'est froid, surtout sur le nord-est, de 6 à 11 au sud et jusqu'à 15 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
On attend donc d'un instant à l'autre les annonces du gouvernement face au regain de l'épidémie de Covid. La conférence de presse d'Olivier Véran doit débuter dans les toutes prochaines minutes. Une certitude, il faut s'attendre à une accélération de la campagne de rappel. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
La Haute Autorité de Santé recommande désormais la troisième dose pour tous dès 18 ans, 5 mois après la dernière injection.
Oui, et cette recommandation repose notamment sur une étude préliminaire de l'Institut Pasteur, dont les résultats montrent effectivement un bénéfice non négligeable si on réduit le délai pour la dose de rappel d'un mois chez les plus de 18 ans. Si on l'a fait au bout de 6 mois, cette troisième dose, eh bien on peut espérer une réduction du pic des hospitalisations de 39%. Mais si on l'a fait à 5 mois, on passe à 50%. Et pour information, si on ne la faisait que chez les plus de 65 ans, la baisse ne serait que de 20%. Le bénéfice de la dose de rappel chez les plus de 18 ans est surtout d'ordre collectif, car il y a peu de formes graves chez les jeunes, souvent asymptomatiques. Mais cette troisième piqûre permet aussi de limiter la transmission du virus. Alors évidemment, pour en arriver là, il faut une adhésion forte à la vaccination. Par exemple, au moins la moitié des 18-49 ans. Et les hypothèses de la Haute Autorité de Santé se basent sur 400 000 doses de rappel par jour. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Sophie pour ces explications. Sophie Jousselin, les Français en tout cas, en semble-t-il, devancer ces annonces puisque le nombre de rendez-vous pris sur Doctolib a battu un nouveau record, près de 360 000 pour la seule journée d'hier. Il faut aussi sans doute s'attendre à des changements à l'école. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
On est désormais à 8 000 classes fermées.
Oui, près de 8 000, c'est ce que le ministère a dit ce matin aux organisations syndicales lors d'une réunion sur la situation sanitaire où il a été question des nouvelles mesures. Alors on ne va pas passer au niveau 3 du protocole sanitaire. Le niveau 2 est maintenu. En revanche, la politique de fermeture de classes sera modifiée. Elles ne vont plus fermer dès l'apparition d'un cas à l'école primaire. L'expérimentation en cours dans 10 départements va s'étendre à toute la France, c'est-à-dire un cas survient dans une classe, les élèves sont testés, ceux qui ont un test négatif peuvent continuer à aller en cours. Dans les 10 départements actuellement concernés, ce dispositif mis en place avant les vacances de la Toussaint a conduit à tester les élèves de 700 classes et permis d'en maintenir 400 ouvertes sur 700. Alors, dans le cadre de l'expérimentation, c'est un labo qui vient faire les tests dans la classe. Dans le cadre de la généralisation du dispositif, les labos pourront encore se déplacer, mais il n'y en aura pas suffisamment de disponibles. Donc, les parents feront tester leurs enfants et devront montrer le test négatif pour pouvoir continuer à aller en classe. Les syndicats ont plaidé pour que le temps qu'on obtienne les résultats des tests, les classes soient fermées. Alors, ça pourrait être 2 ou 3 jours, mais pas 7 comme actuellement quand c'est fermé systématiquement.
Et ça risque de changer pas mal le quotidien de bon nombre de parents. Marie Guerrier, vous restez bien sûr avec nous pour analyser et écouter ces annonces.
Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a reçu les partenaires sociaux ce matin.
A priori, pas de nouvelles mesures concernant le télétravail. Le protocole sanitaire, en revanche, est renforcé dans les entreprises. Écoutez Marie-Lise Léon de la CFDT.
Il sera précisé et rappelé, et je pense que c'est effectivement extrêmement important, que les gestes barrières doivent demeurer, que tous les travailleurs soient amenés à les respecter. Dans le cadre de la restauration collective, la distance des 2 mètres devra être respectée en l'absence de masques. Et lorsque les entreprises voudront organiser des pots et des moments de convivialité, les moments conviviaux seront déconseillés par le ministère du Travail, donc ça sera mis à jour dans le cadre de ce nouveau protocole national d'entreprise.
Des propos recueillis pour RTL par Anaïs Bouissou. Renforcement, sachez-le, aussi des mesures en Italie à partir du 6 décembre. Seules les personnes vaccinées pourront avoir accès aux restaurants, bars, cinéma, théâtre, discothèque et salles de sport. L'Allemagne, de son côté, elle a franchi aujourd'hui la barre des 100 000 morts.
Autre grand titre de l'actualité, le drame d'hier au large de Calais.
27 personnes mortes noyées alors qu'elles tentaient de rejoindre le Royaume-Uni. Réunion de crise ce matin à Matignon. Emmanuel Macron, lui, s'est entretenu tout à l'heure avec Boris Johnson. Le président français annonce une réunion des ministres de l'Intérieur de nos deux pays dès demain et il appelle le Premier ministre britannique à ne pas instrumentaliser une situation dramatique. Ce sont ses mots. Du côté de l'enquête, c'est le parquet de Lille désormais qui est à la manœuvre. Parquet qui dit que les 5 personnes interpellées hier n'ont pas de lien direct avec ce naufrage. Parmi les victimes, 17 hommes, 7 femmes et 3 jeunes personnes, c'est ce que dit le parquet de Lille, qui pourraient être des adolescents, 2 garçons et une fille. Les investigations médico-légales sont en cours à l'heure où on se parle. Les 2 rescapés, eux, sont toujours hospitalisés, mais leur pronostic vital, a priori, n'est plus engagé. L'un serait de nationalité somalienne, l'autre de nationalité irakienne. Ce qui est sûr, c'est que l'émotion à Calais reste bien sûr immense ce midi, Franck Hanson.
Oui, un drame que tout le monde redoutait ici dans le port de Calais, où l'on est habitué à croiser ces groupes d'exilés du Moyen-Orient et d'Afrique, comme ceux qui ont péri hier sur leur embarcation de fortune sur les quais face au ferry Transmanche. Joss Martin, patron pêcheur, a du mal à croire à la thèse de la collision avec un cargo.
J'étais en mer hier, il y avait très peu de vent. Non, je pense qu'ils n'ont pas été percutés, je pense pas, c'était en plein jour. Tous ceux qui sont dans les parages, que ce soit ferry, cargo, professionnels, pêcheurs, ils sont attentifs parce qu'on le sait qu'il y a des traversées de migrants. Même des très grands Zodiacs qui se retrouvent à quand même surcharger. Une crevaison et puis surtout se retrouver à l'eau, vous avez vite fait de mourir.
Et comme après chaque tragédie qui touche ces migrants, un hommage est prévu en fin d'après-midi près de l'hôtel de ville, qu'on imagine encore plus pesant vu le nombre de victimes. Pierre Roch, militant associatif, dénonce la réponse des autorités franco-britanniques.
C'est vraiment la colère parce qu'en plus on voit les annonces qui ont été faites par le gouvernement. C'est encore, voilà, on verse dans le tout sécuritaire. Voilà, et ça ne va absolument pas régler la situation, ça va juste empirer. Plus vous militarisez cette frontière, plus vous mettez des policiers, plus les gens ont recours en fait aux personnes dont c'est le métier d'éviter la police, c'est-à-dire les passeurs. Ils sont extrêmement déterminés.
Les 2 rescapés qui ont pu être recueillis hier, somaliens et irakiens, ont quant à eux été hospitalisés. Leur pronostic vital ici à Calais ne serait plus engagé.
Franck Hanson à Calais pour RTL. Côté britannique, beaucoup d'émotions également, mais clairement la France est montrée du doigt, Marie Boueda.
Honteux, titre le tabloïd Le Sun. La photo en une montre des réfugiés porter une embarcation à la mer pendant qu'une voiture de police française les regarde sans rien faire. Le quotidien Métro demande pourquoi la France n'arrête pas les réfugiés. Pour le Daily Mail, Boris Johnson accuse Paris de laisser les passeurs s'en tirer à bon compte. Le Royaume-Uni voudrait envoyer certains réfugiés en Europe, mais le Brexit complique la situation. Il y a un mois, Londres a payé 20 millions d'euros à la France. Elle doit encore 44 millions. Le but, l'aider à prévenir les traversées de migrants. Cette somme tarde à arriver pour des raisons administratives, se justifie le gouvernement britannique.
Marie, c'est dans ce contexte que le Parlement examine actuellement, le Parlement britannique, un nouveau projet de loi qui vise à durcir le système d'asile.
Oui, une nouvelle loi veut rendre plus difficile l'octroi d'asile, ceux qui entrent illégalement sur le territoire, mais que le pays ne peut pas renvoyer pour des raisons de sécurité, ne bénéficieront pas de tous les droits sur le sol britannique. Autrement dit, la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, propose de créer des citoyens de seconde zone pour rendre l'immigration moins attrayante. Cette loi permettrait aussi de condamner les passeurs à la prison à perpétuité.
Marie Boueda, la correspondante de RTL à Londres.
Tout à fait autre chose à présent, c'est aujourd'hui la journée de lutte contre les violences faites aux femmes.
Et Elisabeth Moreno, la ministre en charge de l'égalité hommes-femmes, annonce ce matin sur RTL de nouvelles mesures, 1000 nouvelles places d'hébergement, 5000 téléphones grave danger en plus. Mesure saluée par les associations qui réclament également la reconnaissance d'un statut pour les enfants. Antoine avait 14 ans quand sa mère a été tuée par son ex-beau-père.
C'est un mercredi, ils décident d'aller à la banque ensemble pour séparer les comptes communs. Ma mère revient au domicile familial pour récupérer des affaires pour partir. Et là, effectivement, il passe à l'acte, en fait.
Des coups de couteau dans le dos, 19 coups à la tête, et il a fini par un étranglement avec son foulard. Il voulait la mort de ma mère, en fait.
Aucune décision pour nous, voilà. Il n'y a pas de statut de victime, il n'y a pas de prise en charge psychologique, il n'y a pas de prise en charge financière. On a payé nos frais d'avocat, ça, je trouve que c'est inadmissible. C'est pas à nous de payer, déjà, c'est déjà trop compliqué. Je me suis engagé pour défendre les femmes et surtout défendre les gamins comme moi, quoi.
Un témoignage recueilli pour RTL par Nerissa Emani. Les sports et le PSG qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais les Parisiens n'ont pas vraiment brillé. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire hier soir face à Manchester City. Défaite 2-1, on le rappelle. Les tennismen français débutent cet après-midi les phases de poule de la Coupe Davis. Match à huis clos dans une Autriche confinée.
Et puis, 30 dodos encore avant Noël. Le compte à rebours a commencé.
Ben oui, on tient les comptes. Pour patienter, il y a bien sûr, vous le savez, le calendrier de l'Avent. Vous avez acheté le vôtre, Pascal ?
Non, mais l'Avent, ça commence dimanche.
Oui. Et le calendrier, il est à ouvrir le 1er décembre,
exactement.
La première fenêtre. Il en existe maintenant pour les petits, bien sûr, toujours, mais aussi pour les grands, les adultes. Et en la matière, Nathan Bocca, c'est toujours le calendrier au chocolat qui reste la superstar.
Comme tous les ans, il trône fièrement dès l'entrée du magasin, en forme de sapin, de Père Noël ou de maison. De quoi laisser le choix aux parents, pressés par les enfants pour lancer les festivités.
Alors ma fille, elle a que 3 ans, donc elle comprend pas encore le principe de un jour un chocolat.
Du coup, elle mange tout le premier jour.
Exactement, elle mange tout le premier jour, mais c'est ludique, ça la fait rire d'ouvrir toutes les petites cases et de découvrir ce qu'il y a derrière.
Mais heureusement, il n'y a pas que des tricheurs, certains respectent encore la tradition et en profitent même pour faire de la pédagogie.
Mon petit-fils a 8 ans, mais même à l'âge de 3-4 ans, il commence à s'intéresser à ça et il s'intéresse aux nombres en même temps, il décompte jusqu'à Noël. C'est un jeu mathématique.
Mais même quand on sait déjà compter, il n'y a pas d'âge pour ce petit plaisir de Noël.
J'achète un calendrier de m'avant pour ma fille de 24 ans et c'est une tradition. Il n'est pas question de ne pas avoir le calendrier de l'avant comme quand elles étaient petites. Voilà.
Est-ce que vous savez si elle respecte bien le fait d'en manger un par jour ?
A priori, oui. Après, je ne suis pas non plus à son grande maintenant.
Mais oui, après tout, pourquoi se priver ? Noël, ça n'est pas que pour les enfants.
Eh bien oui, reportage signé Nathan Bocard pour RTL.
Et toute la journée, RTL joue les Pères Noël. 7 chèques de 1000 euros à gagner. On appellera d'ailleurs un auditeur tout à l'heure. Dans les auditeurs ont la parole.
Voilà, et la conférence de presse d'Olivier Véran qui a commencé. Pour l'instant, c'est Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qui est à la manœuvre. Mais le ministre de la Santé a prévenu, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture de commerce. Pour la suite, on attend un tout petit peu.
Eh bien, on est bien content. 12h42, à tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Oui, le virus circule à nouveau. Il circule vite. Il circule partout, en France et dans le monde. Oui, la France connaît à son tour une cinquième vague. Oui, cette cinquième vague sera sans conteste plus forte, plus longue que la quatrième vague survenue cet été. Je veux vous dire qu'il n'y a aucune fatalité face à ce Covid et à ses cycles. Ainsi, et suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements.
Les mots, vous l'avez reconnu, d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui tient en ce moment même une nouvelle conférence de presse pour détailler les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement. Pour l'instant, c'est Jérôme Salomon qui prend la parole. Olivier Véran a juste posé le cadre, vous venez de l'entendre. Et toute la rédaction d'RTL est mobilisée pour vous expliquer, pour analyser et détailler ces annonces. Odile Pouget, spécialiste santé, Marie Guerrier pour l'éducation et Benjamin Sportouche, chef du service politique, en studio également avec nous, professeur Grimmel. Dit bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans RTL Midi. Vous êtes professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière et fondateur du collectif Inter-Hôpitaux. Benjamin Davidot, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, est en ligne également avec vous. Messieurs les médecins, je vais me tourner d'abord vers vous. On vient d'entendre le ministre de la Santé qui nous dit en préambule, il n'y aura ni couvre-feu, ni confinement, ni fermeture de commerce. Est-ce que ça peut suffire à freiner cette cinquième vague, professeur Grimaldi ?
Oui, alors moi je tiens à préciser que je ne suis pas infectiologue comme mon collègue Davidot, ni immunologiste, ni épidémiologiste. Mais néanmoins, il est évident que la situation pour le moment est moins dramatique en France grâce à la vaccination, grâce au fait qu'on a réussi, en gros globalement, on a débuté de manière chaotique, mais on a réussi la vaccination comme d'autres pays du Sud et plus que les pays au fond fédéraux. C'est-à-dire que je dirais de cette manière... que dans la première phase, sans vaccination, dans le tracé isolé, où il fallait être proche du terrain, notre État très centralisé n'a pas été pas su faire, vraiment. Oui. Et que, inversement, pour la vaccination, nous avons en gros une situation. Alors, ceci dit, la contagiosité continue, le virus continue, circule.
Mais pour prolonger ce que dit Amandine, en fait, notre inquiétude, c'est l'hôpital. Est-ce que l'hôpital peut tenir avec des contaminations qui augmentent chaque jour, mais qui, grâce au vaccin, les cas graves sont moins fréquents, il y a sans doute moins d'hospitalisations, moins de personnes en réa. C'est ça. Est-ce qu'on peut passer l'hiver ? Est-ce que l'hôpital peut tenir ?
Ça, vous avez raison, c'est le critère. Mmh. Le critère, c'est, me semble-t-il, non seulement l'hospitalisation, mais l'hospitalisation en réanimation.
Voilà. Donc est-ce que là, on va tenir ?
Et alors, la réponse, pour être claire, si vous me dites, est-ce qu'on avait une vague comparable à la première vague, est-ce que l'hôpital peut tenir ? La réponse serait non. L'hôpital est maintenant très fragilisé, avec des fermetures de lits, avec des manques de personnel. Donc
c'est ça d'ailleurs qui paraît incroyable, c'est-à-dire que depuis 18 mois, l'hôpital ne se serait pas renforcé alors qu'on est en pleine crise Covid ?
C'est le vrai sujet, c'est-à-dire que la première vague a créé un espoir fantastique d'un changement. On hérite, ça a été dit, d'une politique ancienne qui a complètement affaibli l'hôpital, hein, d'une logique d'austérité de l'hôpital, plus d'une gestion de type à la fois commercial et bureaucratique. Bon, les gens aujourd'hui ont le sentiment que c'est pas exactement pour ça qu'ils ont fait ce métier. Donc il y a une vraie fragilité de l'hôpital que le Ségur n'a pas réglé. Le Ségur a augmenté les salaires, mais n'a pas réglé la logique générale dans laquelle on était depuis des années. Donc ça, c'est le vrai souci. Alors ceux qui sont les plus pénalisés dans cette situation-là, ce seront les patients qui ont besoin de soins qui sont pas Covid. C'est les malades cancéreux, les malades qui doivent être opérés, à qui on va reporter l'opération, etc. Donc la pénalité, elle n'est pas seulement les patients en réanimation pour des raisons de Covid. Elle est tous les autres patients.
Benjamin Davido, merci, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes donc un infectiologue, hein, je le rappelle, à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. On a entendu le ministre de la Santé dire ni couvre-feu, ni confinement, ni fermeture de commerce. Ça peut suffire à freiner cette cinquième vague ?
Écoutez, en tout cas, moi, je plaide pour qu'on évite à tout prix toutes ces restrictions. D'abord parce que le vaccin est là pour protéger, comme ça a été bien expliqué, des formes graves et des hospitalisations, notamment en réanimation. Et mon espoir, c'est qu'on réussisse cette campagne de boost vaccinal de troisième dose pour protéger durablement les individus, parce que c'est ça qui se joue. J'entendais tout à l'heure la question de Pascal Praud qui était, est-ce qu'on va réussir à passer le cap de l'hiver ? C'est ça en réalité notre objectif, c'est d'arriver jusqu'à la fin mars en évitant un maximum d'hospitalisation, parce que cette vague, elle va être inédite entre guillemets, parce que comparativement à l'année dernière, on était confinés. D'abord, les deuxième et troisième vagues ont été très dures à l'hôpital, et c'est qu'en fait, c'est une vague qui va durer en réalité. La quatrième vague de cet été était relativement facile à contenir, parce qu'elle a duré sur un laps de temps relativement court, avec un pic modestement élevé.
Jérôme Salomon disait il y a un instant que l'Europe est redevenue l'épicentre de l'épidémie. L'Europe, c'est 67% des contaminations dans le monde. Un taux d'incidence en Europe de 270 contre 48 au niveau mondial. Et évidemment, le vaccin est une arme efficace. On va marquer une pause. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés donc de 18 ans et plus, dès 5 mois après leur dernière injection. Ce qui veut dire qu'en pratique, cela concerne 25 millions de Français. 25 millions de Français, dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel. Il reste
RTL,
donc
vous l'annonçait dès hier, Olivier Véran, le ministre de la Santé, le confirme à l'instant. La troisième dose sera donc ouverte à tout le monde, à tous les plus de 18 ans. Et dès 5 mois, Odile Pouget, finalement, le ministre de la Santé suit les recommandations de la Haute Autorité.
Oui, absolument. La Haute Autorité de Santé qui, dès ce matin, recommandait justement cet élargissement du rappel à toute la population de plus de 18 ans et avec ce délai de 5 mois. On sait qu'avant, le délai, c'était 6 mois. On attendait 6 mois. Aujourd'hui, c'est 5 mois. Olivier Véran a été très, très, très précis. Il a dit que si on n'avait pas actuellement cette couverture vaccinale, eh bien, on serait complètement submergé par cette épidémie. Et donc, il a vraiment insisté sur le fait qu'aujourd'hui, en réanimation, par exemple, eh bien, il y a 10 fois plus de gens non vaccinés que vaccinés. Donc, Aujourd'hui, l'élargissement de ce rappel, ça concerne 25 millions de Français, 25 millions, dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel. Donc on en est à 19 millions. Ils viennent dire aussi qu'on aurait bien sûr assez de vaccins pour vacciner pour cette dose de rappel.
Et à l'instant, l'Agence européenne du médicament annonce que le vaccin Pfizer est approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans. C'est le régulateur européen Odile.
Oui.
Ça ne veut pas dire forcément que le gouvernement va y aller tout de suite là maintenant.
Non, absolument pas. Pour l'instant, on attend bien sûr l'avis, le feu vert de la Haute Autorité de Santé. C'est elle qui va faire cette recommandation et après, il y aura l'avis du gouvernement, bien sûr.
Et après ça, Benjamin Sportouche, on sait que le gouvernement est un peu divisé, réticent, en tout cas sur cette question-là.
Vous savez que c'est très clivé au sein du monde politique, les élections approchent et que c'est un sujet très sensible. En revanche, on va se poser la question de l'obligation vaccinale, où là, il y a des partis qui se prononcent pour ça, en particulier le Parti Socialiste.
Avec nous toujours le professeur André Grimaldi en studio et Benjamin Davido qui est en direct avec nous. Benjamin Davido, il faut que tout le monde y aille à cette vaccination, c'est-à-dire d'abord les plus de 18 ans pour cette troisième dose. Qu'est-ce que ça peut changer? Les auditeurs ne comprennent pas toujours quel intérêt pour eux quand on est jeune, en bonne santé. On l'a dit beaucoup, mais il y a un vrai effet boost, comme on le dit, de cette troisième dose.
Oui, tout à fait. Mais écoutez, je suis ravi parce que ça fait un mois que je plaide sur les différents médias pour élargir cette campagne de vaccination à l'ensemble des Français adultes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on sait que à partir de 6 mois, on a une perte de l'immunité qui apparaît, de ces fameux anticorps, et on revoit d'ailleurs chez les soignants à partir de 5 mois une augmentation des contaminations, alors que jusqu'alors les contaminations restaient extrêmement faibles et stables chez les soignants, qui, comme vous le savez, étaient le premier groupe des individus vaccinés en France. La réalité, c'est que peu importe l'âge, et y compris chez les jeunes, ce phénomène existe, c'est bien démontré scientifiquement, et que cette troisième dose, elle permet un boost vaccinal, c'est-à-dire qu'on va ensuite revenir à un taux d'anticorps très élevé qui va permettre de 10 à 20 fois de réduire le nombre de contaminations. Et donc, quand on est jeune, ça veut dire qu'on va réduire également la probabilité de se retrouver avec un test positif, d'abord de se retrouver contaminé, et aussi, potentiellement, ça va réduire la circulation du virus et la transmission. Et c'est bien ça, aujourd'hui, l'enjeu, on en parle depuis tout à l'heure, c'est de faire en sorte que la transmission se fasse le plus faiblement possible et que la circulation du virus soit le plus faiblement possible jusqu'à la fin de l'hiver pour arriver ensuite, je l'espère, sur un printemps, une saisonnalité nous aidante et diminuer les contaminations durablement.
C'est la première fois que le nombre de cas chaque jour est décorrélé du nombre de personnes qui entrent en réanimation, et ça c'est plutôt positif. Mais est-ce que pour vous, monsieur Davido, ce qui se passe en Israël est un exemple sur deux niveaux, évidemment la troisième dose, mais également la vaccination de tous, y compris les enfants?
Alors vous avez raison, je pense que le modèle israélien, vous savez, c'est modèle précurseur, et c'est un modèle qui, je pense, essaye d'atteindre justement cette fameuse immunité collective dont il y a quelques mois on nous a expliqué, j'ai pas très bien compris pourquoi, que c'était plus possible. Moi, ce que je crois, c'est qu'à un moment donné, on va arriver sur une population largement vaccinée, largement protégée, et qu'on sait que lorsqu'on est vacciné, on a beaucoup de chances, y compris si on est contaminé, plus d'une chance sur deux, de faire une forme asymptomatique. Et donc, on va tous s'immuniser progressivement. Et la bonne nouvelle, c'est que les publications scientifiques, notamment dans de grandes revues comme Nature, montrent que l'immunité naturelle peut permettre d'atteindre une immunité durable.
Mais ma question
moins
était sur les enfants, forcément. Enfants,
oui,
compris ou pas. Est-ce qu'il faut vacciner tout le monde?
En réalité, je pense que c'est l'évolution des courbes épidémiques qui nous dira si oui ou non on arrive avec ces troisièmes doses suffisamment à réussir à contrôler au niveau d'exigence que l'on a en Europe, notamment pour éviter, comme vous l'avez très bien dit, la saturation des hôpitaux. Si l'objectif n'est pas atteint, je pense qu'en effet, il faudra se poser la question de vacciner les 5-11 ans. Je crois qu'il n'y a rien d'honteux. Il y a beaucoup de vaccinations qui sont obligatoires, qui ont permis de régler des épidémies préalable. Je crois qu'on n'était pas vivant pour le voir. Mais en réalité, je pense qu'il faut avancer prudemment et surtout ne pas bousculer les étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif, encore une fois, c'est de protéger les gens les plus à risque de se retrouver à l'hôpital. Et on sait très bien que ce ne sont pas les enfants.
Professeur Grimaldi, la vaccination des enfants fait partie de ceux qui freinent un peu.
La vaccination des enfants pose le problème que les enfants n'ont fait un risque très très faible de forme grave.
Du coup, où est le bénéfice-risque ?
Par contre, oui. Par contre, le virus circule. Et tant qu'il circule, il peut muter. Et on peut se retrouver avec un mutant résistant aux vaccinations. Deuxièmement, il y a quand même des fermetures de classe. Ce n'est pas tout à fait rien.
8 000, hein,
donc la logique serait celle-là. Ça, c'est que ce qu'on font les USA, ce que fait Israël, peut-être pas tout de suite, mais on risque, si ça continue, si la vague continue, de se poser cette question. Mais à ce moment-là, il sera difficile de ne pas défendre que le pass devient un pass vaccinal. C'est-à-dire que des seniors puissent ne vouloir ne pas être vacciné ou ne soit pas vacciné, qu'on ne soit pas donné les moyens de les vacciner, alors que l'autre question sera que ça sera forcément au volontariat des parents. Mmh. On imagine mal que ce soit pour le moment obligatoire.
Émission un peu particulière, on va marquer une pause. Le ministre Véran est toujours en train de s'exprimer, toute la rédaction d'RTL est mobilisée. Nous écouterons évidemment les auditeurs, bien sûr, mais on va continuer de décrypter, débriefer ce qui se joue actuellement. A tout de suite.
RTL Midi.